Le mois de novembre et le début du mois de décembre, c'est la période où l'Église se concentre sur l'eschatologie. Et là déjà, ça commence. Vous voyez, cet épisode, là, chez saint Marc, c'est la veuve. Il n'y a rien d'eschatologique, me direz-vous. Mais si, parce que ça se passe dans le temple et que l'épisode suivant, dans le même évangile, c'est la question du temple, de la part des disciples. Combien de temps est-ce que ce temple va encore durer? Et Jésus, eh bien, enchaîne sur les discours eschatologiques à partir de là. La veuve, l'obole de la veuve, de même l'accueil de la veuve de Sarepta qui accueille Élie sur son dénuement, hein, puisqu'elle est prête à mourir de faim et avec son fils, eh bien, cette veuve, en tout cas, là, au temple, elle soutient le temple. Et elle y voit beaucoup d'importance puisqu'elle va jusqu'à prendre sur son indigence pour y participer. Et le temple, c'est la présence de Dieu dans le monde, sous une forme tangible, sous une forme rituelle, mais sacrée plutôt que rituelle. Jésus, lui, consacre ce geste de la veuve. Il ne dit pas, comme certains pourraient le dire, par rapport au contexte, c'est superflu son geste et elle a bien tort, puisque de toute façon il y en a d'autres qui mettent, et elle n'a pas beaucoup. De nos jours, c'est plutôt les riches qui raisonnent comme ça et pas les pauvres. C'est un don, un cadeau, ça se fait évidemment avec son cœur. Et quand on aime quelqu'un, eh bien, on ne regarde pas à la dépense parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'amour. Et cette veuve, eh bien, elle prouve par son geste, eh bien, qu'elle avait beaucoup d'amour. D'amour pour le temple, mais pas seulement pour les pierres. Ça, c'est la question des disciples juste après. Oh, regarde Jésus, que de belles pierres de taille, etc. Et c'est alors que Jésus prédit sa destruction. Non, ce n'est pas les pierres qu'elle aime, la veuve. Ce qu'elle aime, c'est celui que les pierres abritent. Les pierres, c'est le marchepied du trône de Dieu, en quelque sorte. Et elle participe, elle veut offrir quelque chose à Dieu, puisque le temple est sensible, eh bien, elle veut offrir quelque chose de sensible de sa part à elle. De même, Sarepta, c'est le prophète Élie, il avait prophétisé une période de sécheresse avec la disette qui l'accompagnait, la famine, parce que les récoltes, évidemment, ne donnaient plus. Et tout ça pour châtier Israël. Et il est envoyé sur la côte, vous voyez, Tyr et Sidon, donc c'est Canaan, quoi. Les territoires des Cananéens et Sarepta, ça faisait partie de ces territoires. Pas tout à fait sur la côte, mais presque. Et il est accueilli par cette veuve qui souffre elle-même de la faim, puisque le monde, lui, souffre d'une faim spirituelle qui est immense. La question du temple, eh bien, elle est centrale. La seconde lecture, c'est le temple céleste. Et le culte aussi céleste qui l'accompagne, un culte nouveau, celui du Verbe de Dieu, le grand prêtre, celui qui est irremplaçable et qu'aucun prêtre ne remplace en ce monde, c'est Jésus-Christ. La solidité du temple, elle est liée, nous dit, répond donc Jésus à ses disciples, « Ah, tu vois ces belles pierres, Seigneur !» Et il leur dit que cette solidité du temple ne dépend pas de facteurs physiques, matériels, il dépend de Dieu et de la foi des hommes, de la foi des fidèles. Le temple ne doit jamais être pris comme une finalité en soi. Ça reviendrait à faire de la religion une idéologie, comme dans l'islam. Mais nous n'avons pas le droit de faire ça. Le Seigneur ne peut pas se rendre présent si on fait ça dans le monde. Donc, le temple, quand nous le voyons, donc l'Église pour nous, eh bien ce temple c'est un ascenseur qu'il faut prendre pour acquérir le sens de la transcendance. Et c'est la transcendance qui fait que le temple est solide. À l'époque du Christ, le sens de la transcendance était complètement perdu. Il a fallu que Jean-Baptiste revienne pour le rappeler et Jésus derrière lui. C'est pourquoi le temple de Pierre allait vaciller lui-même. C'est une chose qu'on ne mesure pas, nous autres hommes. On croit, et même les croyants, hein, on ne mesure pas la puissance de la transcendance. On s'imagine qu'il n'y a que l'action, et l'action planifiée, rationnelle, appuyée par des moyens financiers conséquents et calculés. Et tout ça, ça a fait une faillite gigantesque depuis les années 70. C'est une débâcle complète des plans pastoraux, comme des plans quinquennaux d'ailleurs. Ça rime presque. Et tout ça, ça vaut rien s'il n'y a pas la transcendance. Et le temple qui s'écroule, qui menace de s'écrouler, c'est bien ça. C'est un temple qui repose plus sur la foi, l'espérance, la charité, mais il repose sur des idées, bonnes, puisqu'elles viennent de la Bible, mais ça ne suffit pas, ça reste des idées. La veuve, elle, son geste nous montre comment doit être animé ce temple-là. Avec le cœur, avec l'amour, et l'amour de Dieu, pas seulement l'amour d'une institution. On finit par se lasser de l'amour d'aimer une institution pour elle-même. Personne ne peut aimer une institution pour elle-même. Et une idéologie, ben c'est parce qu'on tourne en boucle et on a été transformé en rouage et décérébré. Et alors oui, ben là, ça peut occuper l'esprit sans cesse comme une obsession. Mais ce n'est pas une institution qu'on aime. On aime celui que l'institution nous montre qu'elle porte, tel un écrin. Et le geste de la veuve est très important. Il n'est pas, c'est pas un geste d'aumône. Il n'est pas tourné vers le prochain. Là encore, combien de fois j'ai entendu des moralistes, des prêtres moralistes ou chrétiens moralistes, dire « Ah là là, mais ce geste de la veuve, mais c'est détourner l'aumône. » Eh bien, ce n'est pas du tout, ce n'est pas une aumône, ce n'est pas conçu pour ça. Elle fait autre chose, elle appuie ce qui témoigne de la transcendance en ce monde. La porte du ciel, en quelque sorte. Et elle veut vraiment que ce soit ce temple, cette église, donc, qui puisse remplir ce rôle et qui ait les moyens de le faire. Et ce n'est pas les deux pieds sept qu'elle donne, auquel elle pense. Elle pense, elle, à l'amour qu'elle communique. Parce qu'elle aime cette église et que Dieu habite ce temple, eh bien, c'est une prière, son don. Mais un don qui est réel, sinon ce ne serait plus une prière forte. Ce serait une prière pieuse. Là, elle prend sur son nécessaire. Et cette prière est d'autant plus forte. Elle nous explique, cette veuve, comment nous devons prier. Et quelle doit être la finalité de notre prière? Un temple, oui, mais un temple qui soit la maison de la transcendance, en quelque sorte. Qui permette vraiment de faire briller cette transcendance sur la terre. Parce que l'âme est le véritable temple, et ça c'est Jésus qui nous l'apprend, pas le temple de Pierre. Et Jésus poursuit après son récit, c'est les récits eschatologiques. Il dit qu'il faudra fuir. Et prier pour que ça ne se passe pas en hiver. La fuite eschatologique, quand on verra l'abomination de la désolation dans le temple, nous dit-il, alors sortez de la ville. Sortez de la ville parce que, donc, du monde globalisé, en quelque sorte, et de ses antivaleurs. Parce que c'est l'époque des faux prophètes, des persécutions, des hérésies, donc l'abomination de la désolation dans le temple qui remplace le culte de Dieu. C'est aussi évidemment l'apparition des antichrists, nous dit saint Marc, et de l'obscurcissement des astres. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? C'est pas des armées étrangères qui affluent vers nous, vers les croyants. Tout ça, c'est des symboles qui se rapportent à toutes les valeurs spirituelles. Elles seront toutes obscurcies. Le temple lui-même, le culte qui s'y rend, deviendra indéchiffrable parce que tout sera brouillé au point qu'on finira par adorer l'hérésiarque lui-même, l'abomination de la désolation, le faux Dieu par excellence, les fausses valeurs. Un monde qui aura tellement perdu le sens de l'intelligence qu'il ne saura plus se tourner vers, qu'il ne saura plus où est le haut et le bas, qu'il ne saura plus se tourner vers Dieu. Vraiment un chaos total au niveau spirituel. Il ne faut pas tant le chercher au niveau matériel quand on lit les textes eschatologiques ou les textes apocalyptiques, ça revient au même. On se dit, oh là là, mais ça va être des crises mais tout à fait matérielles, des bombes atomiques, un climat. Là, c'est une question d'actualité. Un climat qui va se retourner contre nous et nous anéantir, etc., etc. Eh bien, tout le chaos matériel, ce sont juste des signes et des avertissements qui se contentent de nous dire que nous devons nous convertir et que la vie n'est pas dans les plaisirs futiles ni dans la domination, mais que la vie est dans l'amour, que la vie est dans la vérité. Donc c'est juste des signes annonciateurs, comme dit Jésus. Mais les véritables obscurcissements, et qui sont les pires, puisque c'est le châtiment de l'enfer, c'est la perte du sens de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils n'ont pas besoin de sentir Dieu. Or Dieu se fait sentir à tous, comme le soleil se fait sentir à tous les corps. Dieu se fait sentir à toutes les âmes en ce monde. Mais même ceux qui le refusent ne s'en rendent pas compte. L'enfer, c'est l'expérience de l'obscur. Et ce que dit Jésus, là, à la fin des temps, cette expérience se fera. Dans le texte de l'Apocalypse, l'obscurité complète de la terre arrive lorsque le puits du gouffre est ouvert et qu'une nuée de sauterelles, c'est-à-dire tous les habitants de l'enfer, tous les démons en sortent et obscurcissent l'atmosphère au point que le soleil ne peut plus darder ses rayons. Ça veut dire que les valeurs religieuses deviennent incapables de donner un sens au monde, de donner sens à la vie des hommes. Dès lors, il n'y a plus que les ténèbres. Et ces ténèbres, je le répète, c'est une expérience d'enfer. Voilà la période qui s'ouvre, la période liturgique qui s'ouvre devant nous. La veuve, elle donne tout ce qu'elle a, et surtout elle donne tout son cœur, pour que ce paratonnerre qu'est le temple, ce phare, dirais-je, qui lui, dans la nuit, puisse continuer de remplir sa fonction pour le salut du genre humain.